vous casser le crâne, je vais vous achever. Vous allez passer une nuit, ça va être terrible. Franchement, je vous plains. Alors, vous m'avez obligé à pas mal travailler, parce que ceux qui ont des vagues souvenirs, donc je suis venu l'année dernière pour votre week-end d'église, et nous avions travaillé, le KSM m'avait demandé être chrétien dans un monde post-moderne. Et peut-être qu'il y en a qui se souviennent, mais je vous avais fait donc toute une étude sur la post-modernité. Et je me suis dit, honnêtement, ils me font venir, je peux pas leur resservir la même soupe. Et donc, vu que vous aviez eu une introduction, disons une entrée en matière, là maintenant on va rentrer dans le cœur du truc et ça va vous démonter, parce que moi-même je ne maîtrise pas ce dont je vous parle. Alors, vous allez voir, ça va bien se passer, on va s'accrocher. Ce que je voudrais ce soir, demain on viendra à quelque chose qui est plus pratique et nous essaierons de comprendre les formulations, les objections qui nous sont données par nos contemporains qui sont athées, savoir comment leur répondre aussi, utiliser aussi ces objections dans les discussions qu'on a. Mais avant, ce soir, je voudrais qu'on comprenne le postmodernisme. Le postmodernisme, c'est une déconstruction du modernisme, de la pensée classique. Ok, donc si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Non, ce que je vous dis, c'est que imaginez littéralement une déconstruction. Pour comprendre ce que c'est, il faut comprendre ce qui a été construit. D'accord ? Donc on va comprendre ce qui a été construit comme pensée classique pour comprendre pourquoi elle a été déconstruite et qu'est-ce que ça donne maintenant une fois que tout est déconstruit, qu'il y a toutes les pièces qui sont par terre. Parce que la pensée postmoderne, c'est vraiment ça. C'est comme si vous étiez du ciel et vous regardez un tas de moellons, un tas de briques, de poutres, de ferrailles entremêlées, complètement détruites, pareil. Et ça, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. La pensée est déconstruite et elle s'assume, elle est fière de ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, les origines. Alors, on va remonter très loin. Et je vais vous citer quelqu'un, vous serez pas content d'en entendre parler, ça va vous rappeler des vieux souvenirs, des vieux démons, c'est Platon. Alors, dommage, on voit rien. Et si on voit rien, on va pas comprendre. Est-ce qu'il y a moyen d'atténuer des... Exactement, on comprend rien, c'est le but. Juste les, si c'est possible, les néons qui sont là. Voilà. Ok. Ouais. Ah ben si, juste pour cette diapo, s'il te plaît, juste pour cette diapo complètement noire, parce que sinon on comprendra pas. Voilà. Alors, ne vous endormez pas, je vous en supplie, et moi, je vais essayer de pas tomber non plus. Alors, le platonisme pour les nuls. Moi-même, étant un nul, j'ai eu, je crois, 6 au bac, en philo. Depuis, j'essaie de me rattraper. Et je vous encourage vraiment, ceux qui... Est-ce qu'il y en a encore au lycée? Ouais, ok. Apprenez à kiffer la philo, parce que c'est indispensable pour comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui et de pouvoir répondre. Il faut connaître la pensée. Et je vous encourage vraiment à bosser pour de vrai vos sujets de philo, parce que c'est très utile, vous allez le voir. Alors, le mythe de la caverne. Est-ce que vous connaissez un petit peu, ça vous rappelle peut-être vaguement quelque chose d'horrible? Vous allez voir, c'est pas si horrible que ça. C'est une image qu'a donné Platon, une image symbolique, une allégorie, pour expliquer une vision du monde. Et c'est la vision classique du monde. Pendant plus de 2000 ans, cette vision a perduré et a été poussée jusqu'à sa quintessence au siècle des Lumières. D'accord ? Alors, je vous explique. L'homme est dans la caverne. Vous le voyez ici. Il est dans une caverne et cette caverne symbolise le monde sensible. Ça veut dire le monde que l'on perçoit par ses sens. C'est-à-dire la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût. Voilà. Et l'homme est enchaîné. Là, on voit mal, malheureusement, il a une chaîne autour du cou. La chaîne symbolise la limite physique de ses sens. L'homme, je ne peux pas voir dehors. Je peux voir que ce qui est là. Je vois pas, j'ai pas le laser. Donc l'homme, voilà. Et ce qu'il voit, c'est une image projetée sur un mur, des ombres. Ces ombres symbolisent les préjugés qu'il a sur la réalité. Ça va? Vous comprenez? Ok. Bon, là, moi, je suis dans le rouge, hein, déjà. Alors, pour Platon, le philosophe, c'est celui qui va sortir de la caverne pour voir le monde intelligible, celui de la raison, du logos des Grecs, ça doit vous faire écho. Il va voir le monde intelligible, il le comprend, il retourne dans la caverne pour dire la vérité et casser les préjugés pour que les gens atteignent la raison. Ça rappelle vachement une image quand même. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des parallèles énormes avec la révélation, quoi. Hein, Christ qui s'incarne, qui vient dans notre monde. Enfin, voilà. Je trouve qu'il y a des échos qui sont intéressants. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Premièrement, il y a une forme d'orgueil intellectuel. Pensez simplement au colonialisme. Pourquoi les Européens se sont lancés dans la colonisation? Parce que eux, ils ont été édifiés sur cette pensée philosophique que l'homme peut par lui-même accéder à la vérité, comprendre vraiment les choses et après les expliquer aux autres. Pardon ? Excuse-moi ?
En les tuant.
En les tuant, ouais, voilà. En les soumettant, en leur disant, ben, nous, comment on fait dans notre culture, c'est bien. Vous, vous êtes des indigènes et on va vous expliquer comment vivre, comment être des gens civilisés. Deuxièmement, une chose à laquelle je pense aujourd'hui, vous allez voir, vous savez, il y a toujours, peut-être vous vivez même dans vos familles, on vous dit, vaut mieux être docteur, ingénieur que manuel, que faire un CAP plombier. Pourquoi? C'est pas qu'une question de revenus, parce que des fois un plombier peut se faire bien plus qu'un médecin, mais c'est une question de dichotomie entre le travail manuel, avec les sens, les choses, et puis le travail qui est intellectuel, où la raison prédomine, et la raison est plus forte que tout. Hein? Et ça, en fait, ça revient d'une vision du monde qui est héritée depuis Platon. Le stoïcisme, qui est né 2 siècles après Platon, grâce à un monsieur qui s'appelait Zénon, c'était une forme de culte, vraiment, de l'homme qui essaye de rentrer par un ascétisme, d'arriver à la connaissance ultime. Il y a d'autres mots. Vous connaissez peut-être ces mots d'immanence et transcendance? Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est l'immanence? Oui, ça se rapproche plus de la transcendance. C'est le pendant de l'immanence. L'immanence, ça veut dire que le principe même est en la chose. L'immanence, c'est l'homme parvient par ses sens, parce qu'il a à l'intérieur de lui ce qu'il est à comprendre. La transcendance, c'est l'inverse, c'est qu'il y a quelque chose qui le dépasse, une raison qui le dépasse, une force, une intelligence, quelque chose qui le transcende, qui le transperce et qui est là. Et en fait, le philosophe va comprendre ce qui est transcendant et va l'imposer à la façon dont l'homme comprend par lui-même à l'immanence. Ça va? Vous achevez?
Ah, je veux dire, ça veut dire l'immanence, bon, si on prend l'exemple d'un homme, l'immanence c'est intérieur.
Oui.
Vient de lui-même.
Voilà.
Et la transcendance sera quelque chose d'externe.
Voilà, ça va être. Voilà. Par exemple, on va le retrouver après, mais l'immanence, c'est croire que Dieu est en moi, que je suis, que je peux accéder par moi-même à Dieu. Et la transcendance, c'est avoir la conviction qu'il y a quelque chose d'extérieur à moi, supérieur au monde sensible que je peux percevoir par mes sens. Par exemple, ce qui est spirituel transcende le matériel. C'est au-delà de la matière. Il n'y a pas que de la matière. Il y a des émotions, il y a des choses qui sont plus que simplement de la matière. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. J'ai juste essayé de rattraper mes coups de fil. Alors, oui, petite statue. Ça fait toujours bien. Alors, Platon a fait une deuxième constatation, et là, par contre, je suis désolé, je vous rappelle quelque chose qu'on a vu à Saint-Maur, mais certains n'étaient pas là, et vous allez voir, on va vite. C'est dans son ouvrage de la République, qui est un classique. Je vous demande pas de vous le lire. Moi-même, je vous le dis honnêtement, je ne l'ai pas lu en entier, mais il existe des recensions, des résumés, qui sont très intéressants à lire, où on a le cœur de la pensée de Platon, et c'est un homme qui a apporté, qui a créé la matrice de la pensée classique qui a duré pendant des siècles et des siècles après ça. Alors, Platon avait fait donc une constatation, c'est qu'il y a des sociétés qui sont dans un modèle qu'on appelle la timocratie. La timocratie, c'est pas une société fondée sur Timothée, c'est une société qui est fondée sur le mérite. Il y a un chef qui est méritant, qui est charismatique, qui est le leader, qui, c'est celui, comme imaginé dans une tribu reculée, c'est le chasseur, l'alpha mâle, celui qui conduit, qui veille sur le bien de la tribu, de la communauté. Et puis, ce chef, ce leader, a une famille, et puis va naturellement transmettre le pouvoir, non pas à un autre qui est plus méritant, mais peut-être à son fils, pour garder l'héritage. Et puis ça peut devenir une transmission de pouvoir de génération en génération, une forme de dictature, de monarchie, tout ça. Le terme général, c'est ce qu'on appelle l'oligarchie. Et puis l'oligarchie mène à une révolte du peuple, parce que le peuple veut reprendre ce pouvoir et se dit c'est pas normal qu'on ait au-dessus de nous quelqu'un. Et donc le peuple veut le pouvoir, démocratie. Ça, c'était il y a très longtemps. Hein. C'était 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais le problème de la démocratie, c'est que un homme fou, un homme déraisonnable, s'il est malin, peut l'emporter sur un homme qui est bon. Parce que par le vote, en donnant le pouvoir, s'il y a quelqu'un qui est mal intentionné mais qui est un très bon manipulateur, peut arriver au pouvoir. Je vous rappelle qu'Hitler est arrivé au pouvoir dans une démocratie. Et la démocratie, donc, peut mener à l'établissement d'une tyrannie. Qui va libérer l'homme d'une tyrannie? C'est un chef vertueux. C'est De Gaulle, c'est Roosevelt, c'est Eisenhower, etc. Et puis, les cercles se répètent. Et donc, il avait fait cette constatation qu'en fait, l'homme, dans son propre système, même, et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que même en parvenant au monde intelligible, en ayant une réflexion qui soit approfondie, au-delà, supérieure, fondée sur la raison et non pas uniquement sur les sens, était incapable de trouver un modèle de société qui soit vertueux et qui perdure dans le temps. Il l'avait anticipé et l'histoire a montré qu'il avait tout compris. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant, ce monsieur. Du coup, on a constaté dans l'histoire qu'il y a eu une explosion véritablement de la culture européenne. Ça s'est passé en Europe, c'est né en Grèce, et ça s'est après trouvé dans toute l'Europe. Et en Europe, vous allez le comprendre, je vous rappelle là maintenant, on passe de la philo à l'histoire, il y a eu une explosion de notre culture. L'obscurantisme religieux, les ordonnances, et tout ça. On a vu que le religieux prétendait d'étendre à la place du philosophe la compréhension de la transcendance, la connaissance de Dieu, mais en fait, on a vu que c'était des balivernes, que c'était de la manipulation. Donc la société est revenue de ça. Je suis très schématique, exprès, parce qu'on fait 2500 ans d'histoire en deux lignes. Et puis, le siècle des Lumières, qui, eux, ces personnes-là aussi, ont attaqué à gros coups de poing une vision obscurantiste, les Lumières ont dit... Et ça, c'est la quintessence de la vision classique de l'homme, c'est que la science peut remettre en question les dogmes de l'Église, des vérités qui sont énoncées. En fait, c'est pas la religion qui détient la vérité. On parvient à la connaissance et la compréhension de la transcendance, du monde intelligible, par la science. Mais le problème, c'est que il y a eu, après les révolutions industrielles, là on a vu vraiment que le progrès influencé, dynamisé, boosté par des idéologies sur lesquelles on va revenir juste après, capitaliste et marxiste, le progrès apporte du bien-être. Ce n'est pas forcément uniquement que la quête de la raison, mais il y a aussi une quête de bien-être qui s'acquiert par les biens matériels qu'on a. C'est très important, et Marx a donné une réponse là-dessus. Et puis, la mondialisation donc des idéologies et idéologie politique, je vous en ai parlé, donc c'est le marxisme et le capitalisme qui ont d'un coup, grâce aux révolutions industrielles, qui ont apporté notamment une grande amélioration des flux de biens, de personnes, de capitaux, on dirait un cours d'écho, et de communication. Non mais c'est vrai, il y a une cohérence. Hein. Si un jour on m'avait dit que je ferais ça, c'est quand même fou ce que le Seigneur nous fait faire. Et donc, mondialisation, du coup, ces vecteurs ont permis la mondialisation d'une vision. On n'est plus dans une petite tribu qui est en autarcie. On a des visions, des idéologies, qui peuvent se présenter et se diffuser dans le monde à très grande vitesse. Mais l'homme s'est rendu compte avec horreur que le progrès n'apportait pas que de bonnes choses. Et là, les deux guerres mondiales ont été en Europe. Elles sont nées de la culture européenne. Elles ont vécu en Europe et ont fait des millions et des millions de morts et ont contaminé toute la planète. La guerre a contaminé le monde. D'un coup, la guerre était mondiale, comme la pensée, comme les idéologies. Et là, on a eu très peur, parce que Albert Einstein disait, si la deuxième guerre mondiale s'est faite avec une bombe nucléaire, si la troisième guerre mondiale est une guerre nucléaire, la quatrième se fera avec des bâtons et des cailloux. On va retourner à l'âge de pierre. Si on atomise tout et qu'on arrive à survivre, ça sera apocalyptique. Et du coup, j'aime bien cette phrase de Henry Ford, l'histoire est une succession de foutus événements, car rien n'a de sens, à quoi bon ? L'homme a cherché toute son existence à comprendre, à établir un système de fonctionnement qui soit pérenne, une compréhension du monde qui soit pérenne. Mais tout ce que l'homme, dans tout ce à quoi l'homme place sa confiance, non, c'était pas français. Ouais, excusez-moi, je suis fatigué. Mais bref, rien ne marche, quoi. Hein, ça vous va comme ça? Il y a rien qui marche. Il y a un moment, ça casse, quoi. Donc, la philosophie, ça n'a pas marché. Le progrès, ça n'a pas marché. La religion, ça n'a pas marché. En fait, rien ne marche, quoi. Et donc, il y a eu un profond rejet dans notre culture de la raison, de la possibilité d'établir une vérité, d'avoir quelque chose de solide sur lequel se fonder pour vivre. Et si je vous mets ces deux images, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se mettre dans les ténèbres? L'art, vous savez, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Je crois que j'ai dû mettre les pieds dans un musée quand j'étais à l'école primaire, que j'étais obligé. Mais c'est vraiment pas trop mon truc à la base, quoi. Je suis quelqu'un de pas très sensible à, voilà, la musique c'est un peu pareil, tout ça. Mais l'art, les artistes doivent être finement observés parce qu'ils sont un révélateur de la façon dont notre société pense. Et l'art nous donne une mine d'informations. Il y a ce tableau sur la gauche, qui est un tableau de Delatour, qui date donc de la période classique, où l'homme avait ce paradigme du monde sensible et intelligible, et il faut se rendre vers le monde intelligible que la raison nous permet d'accéder. Regardez comme est représenté le sujet, la personne. Dites-moi ce que vous observez sur cette photo. c'est pas la joie, mais encore. Elle est pensive. Merci. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Elle pense, ce regard est tourné vers quoi? Vers la lumière. Qu'est-ce qu'il y a juste à côté de cette lumière? Des livres. La raison. La lumière symbolise quoi? Souvent. L'espoir, autre chose.
La connaissance.
La connaissance. Qu'est-ce qu'elle tient sur ses genoux? Un crâne. Qu'est-ce que ça peut symboliser? La médecine? Ouais, on voit qu'il y a un médecin dans la salle. Alors, description des os du crâne. Qu'est-ce que ça représente, ce crâne?
La mort.
Alors, est-ce que vous pouvez me faire une synthèse?
Pour éviter de mourir, il faut acquérir de la connaissance.
La connaissance, c'est la mort. Non. Non, mettez-vous, rappelez-vous cette vision classique de transcendance. Oui et non. Je redis. Voilà. L'homme, le sujet, l'être humain a la capacité de se penser, de se déterminer, de fixer, de comprendre, d'avoir la connaissance. Il a accès à la connaissance, la raison, et la raison aussi morale, le bien et le mal. Et je ne serais pas étonné, je ne peux pas l'affirmer parce que je ne connais pas assez le tableau, qu'il y ait une Bible parmi les deux livres qui sont superposés. Ce serait vraiment pas étonnant. Maintenant, regardez le sujet présenté. Alors ça, naturellement, on dit que c'est beau. C'est classique. Les lignes sont propres. Le sujet est bien défini. On comprend. C'est intelligible. Hein? C'est intelligible. Ça ne surgit pas comme ça et comme un tableau de Picasso, par exemple. On comprend rien. C'est sensé, c'est organisé. On sent qu'il y a la raison, que ça a été pensé. Ok? Maintenant, regardez le sujet. En 1959, donc au sortir de la Deuxième Guerre, un artiste allemand. Hein, ce détail n'est pas sans apporter du relief à notre analyse artistique. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce sujet? Alors, son crâne, ouais, il est... c'est pas très haut, hein. Ah, on se demande ce qui a été enfoncé dedans, comme ça. Et il a quoi dans la tête? Un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il a sous la gorge? Un rasoir. Et sur le côté, on dirait une espèce de presse, quelque chose qui le pousse comme ça. Voilà, elle a l'air pensive, elle a l'air presque en paix. Et puis lui, vous avez vu ce regard? Le nez, c'est une espèce de mécanique qui a été mise dessus. En fait, peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est des images qui sont collées les unes sur les autres. Le sujet, l'homme n'arrive plus à se penser lui-même. L'identité est complètement déconstruite. C'est comme si on regardait un chantier, un bâtiment démoli depuis le haut. Vous comprenez? Il n'y a plus de raison. On n'arrive plus à se penser nous-mêmes. On ne comprend plus. Cette pensée, cette déconstruction de la pensée moderne, la pensée classique, c'est le postmodernisme. Et cette pensée a été posée par ce qu'on appelle les maîtres du soupçon. Ce sont des personnes qui ont remis en cause la pensée classique. Et il y a clairement Nietzsche qui dit qu'il fait du platonisme inversé. On va y revenir. Vous voyez Platon, lui, il a dit en fait c'est l'inverse total. Et vous allez voir ce que ça veut dire. Et il disait lui qu'il faut faire de la philosophie à coups de marteau. Et il y a un autre philosophe, j'ai oublié le nom et je m'en excuse, qui disait que toute la philosophie, au final, ce n'est qu'une salle de torture pour l'homme. Essayer de penser, c'est une salle de torture pour l'homme. On n'y trouvera que de la souffrance, parce qu'il n'y a pas de sens à l'existence. On a tout essayé, il n'y a pas de sens. Alors, qu'ont dit ces maîtres du soupçon ? Nietzsche a dit, derrière le transcendant, vous vous souvenez, en dehors de la caverne, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a que la caverne. C'est des balivernes. La raison, elle n'existe pas. Regardez l'histoire. Est-ce que l'homme a trouvé les bonnes choses ? Est-ce qu'il a trouvé le succès dans ce qu'il recherchait ? Non ! Tous les modèles de philosophie sont pourris. La seule philo qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de valeur au-delà de l'expérience. Et vous connaissez sûrement cette phrase très connue où Nietzsche, le méchant, le sataniste, dit « Dieu est mort ». Dieu, dans la pensée classique, représente quoi ultimement ? Tu l'as dit, Callaghan ? La connaissance, la transcendance. Et quand il dit « Dieu est mort », je vous invite à lire le Gai Savoir, en tout cas au moins des grands extraits, quand on remet cette phrase dans son contexte, hein, c'est comme pour la Bible, pour bien comprendre, ce qu'il dit, c'est que l'homme a tué la raison. L'homme a tué la raison. Et j'aime bien cette phrase de Philippe Serradji, un article qu'il a écrit qui s'appelle « La montée de l'athéisme contemporain » qui se retrouve sur le site de la Revue Réformée. Il dit ceci, en reprenant les textes de Michel Onfray, qui est un philosophe qui n'est pas crédible, mais sur lequel nous on s'intéresse beaucoup, parce que il parle du christianisme, mais dans les cercles vraiment de la philosophie, il est vraiment réputé pour être pas rigoureux dans sa pensée, après tous les postmodernes. Hein. « Il n'existe qu'un monde, et que toute promotion d'arrière-monde, c'est notre façon de proposer en dehors de la caverne, nous fait perdre l'usage et le bénéfice. » Donc penser qu'il y a un arrière-monde et le rechercher, donc qu'il y a quelque chose en dehors de la caverne, qu'il y a quelque chose au-delà de nos sens, qui nous transcende, donc la pensée d'un Dieu, la pensée d'une éternité, la pensée de quelque chose après la mort, les pensées métaphysiques, comme on dit. Je relis, excusez-moi parce que j'ai coupé. Il dit, donc, penser qu'il y a un arrière-monde nous fait perdre l'usage et le bénéfice du seul monde qui soit. Et il conclut en disant, Michel Onfray, c'est un péché réellement mortel. Parce qu'on se prive des jouissances spontanées de la vie en recherchant quelque chose au-delà de nos sens. Il n'y a que l'expérience qui compte. Mon expérience. Du coup, de là, c'est le froment pour toutes les philosophies modernes, par exemple de l'hédonisme. Rechercher son propre... Vu qu'il n'y a que les sens qui comptent, tant qu'à faire, autant que je cherche un maximum de bonheur au travers de mes sens. Il n'y a que ça. Marx, Karl Marx, était un homme aussi brillant, extrêmement brillant. Et Karl Marx disait que le développement matériel est tout. Il était pour le matérialisme. Il pensait que le monde était uniquement matériel. Quand je parle de matérialisme, je ne parle pas de votre... maladie compulsive de vouloir faire du shopping. Il disait, lui, par matérialisme, que le monde n'est que matière. D'accord ? Et par conséquent, l'acquisition de biens libère l'homme. Lénine, qui était marxiste, disait, la religion, c'est l'opium du peuple. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'homme... Oh là là ! Excuse-moi, que l'homme a la religion parce qu'il n'a, c'est l'opium du pomme parce que l'homme ne peut pas jouir des biens matériels qui sont pour son bien-être. Et si tous les hommes, donc c'est la lutte des classes, peuvent avoir les mêmes biens, alors les hommes seront libérés de la religion. Et la religion est faite pour maintenir l'homme dans la pauvreté, dans la soumission à l'autre, etc. C'est un moyen d'avoir le pouvoir. Et quelque part, Guillaume nous l'a démontré, l'Église catholique a joué un grand rôle là-dedans. Enfin, l'Église, même orthodoxe. J'assume. L'histoire le démontre, hein. C'est pas, j'ai rien contre vos amis. Alors, du coup, voilà, vous voyez Marx. Freud, alors lui aussi est un homme peut-être le plus travaillé des messieurs que je vais vous parler. C'est un homme qui souffrait énormément, qui avait de grands problèmes personnels, mais qui était aussi un esprit très brillant et qui avait un regard, lui, de psychanalyse, donc de réflexion sur le sujet, le moi, le ça, etc. On va pas rentrer là-dedans parce que c'est voilà. Et que l'homme, lui, il dit est déterminé parce qu'il ne maîtrise pas. Alors vous vous souvenez Platon, le stoïcisme, voilà, c'est que l'homme par la raison va pouvoir se maîtriser et battre ses préjugés et tout ça, comprendre le monde. Et lui dit non, ce qui nous dirige, c'est pas la raison, c'est tout ce qu'on maîtrise pas qui est dans notre inconscient. Vous imaginez, pour se construire, on est dirigé par ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui nous est inconscient. C'est terrible, hein. Et puis, il y a Darwin, qui était aussi un scientifique. Toutes ces personnes sont dans la même période historique. Et lui, sa synthèse, c'est qu'il y a une sélection arbitraire et donc la loi du plus fort. Et donc la vie se résume à du hasard et de la nécessité. Alors, vous faites la synthèse, hasard, nécessité, on est conduit par ça, on ne sait pas ce qui nous maîtrise, la religion, c'est quelque chose qui nous maintient dans l'ignorance, ce qui va nous libérer, c'est de posséder, et en fait, il n'y a pas de valeur au-delà de ce que je vis. Allez parler de la vérité de Christ aux gens qui y ont baigné et dont la pensée aujourd'hui est fondamentalement impactée par ces quatre penseurs. Il y a eu Kant avant, que j'ai pas mentionné, qui était là, mais ces quatre hommes sont ce qu'on appelle les maîtres du soupçon, il y en a d'autres, mais ce sont vraiment, il me semble, d'après mes lectures, que tous les autres philosophes de la postmodernité ont bénéficié et se sont inscrits dans la suite de la pensée de ces hommes-là. Donc, quand vous serez en cours et que vous allez voir Marx, que vous allez voir Freud et tout ça, hein? Alors, donc, la pensée postmoderne, le fruit de tout ça, c'est que, à chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité universelle. Ce qui compte, c'est ma perception, il n'y a rien au-delà de mes sens. Et cet après-midi, j'ai discuté avec quelqu'un qui était constamment dans l'incohérence de ses propos. Il se contredisait lui-même, et je lui ai démontré, après que l'évangile était cohérent, il m'a dit, c'est vrai, c'est cohérent, ça tient debout, il m'a dit, c'est ces mots, ça tient debout, mais c'est ta vérité. La vérité n'est pas universelle, il n'y a pas quelque chose en dehors de la caverne, ok, hein? À chacun sa croyance, pas de révélation. Ça veut dire que ce que l'on croit n'est que le fruit de ce qui sort de nous, de ce qu'on va créer nous-mêmes. Il n'y a pas de transcendance. Il ne peut pas avoir de révélation. À chacun sa morale. Ce qui compte, c'est la nécessité. C'est la survie. La morale, du coup, est relative. On reconnaît quand même que pour fonctionner, on est obligé de ne pas mener nos philosophies jusqu'au bout. Hein ? Parce que sinon, ça serait la loi du plus fort, et je pense être le plus lourd dans cette salle, et ça serait moi qui survivrais. Ok ? Mais on pense que quand même, il y a une morale, ouais, il y a quand même un bon sens commun, et on essaye de l'expliquer, mais on est vachement mal pour l'expliquer, parce que ça rentre en contradiction avec une autre vérité énoncée précédemment. Ça, on en parlera demain, c'est ce qu'on appelle les erreurs dans les syllogismes. Et chacun pour soi, individualisme, c'est la conséquence, et autodétermination. Je détermine ce qui est bon pour moi ou pas. L'écroulement de la confiance dans les critères de vérité universelle, c'est la transcendance, c'est ce qui est à l'extérieur de la caverne, c'est la pensée de Platon, est nécessaire, de la pensée universelle est nécessaire, c'est accompagné de l'épanouissement du relativisme et du pluralisme. Et je dirais que c'est l'épanouissement et la conséquence même. Alors, ce que nous verrons demain, c'est que penser que Dieu n'existe pas, Non, excusez-moi, penser que Dieu n'existe pas n'est pas rationnel. Penser que Dieu n'existe pas n'est pas rationnel. D'accord ? Mais repose sur des postulats qui définissent ce qui est rationnel ou non. L'homme postmoderne croit qu'il est plus rationnel de penser que le hasard est à l'origine de tout ce qui existe plutôt qu'un créateur. Et quand on réfléchit, c'est complètement irrationnel. Mais le présupposé hérité de l'histoire est trop fort. Et l'homme n'arrive pas à le dépasser. C'est très important. Et puis, on va voir qu'il faut démontrer que supprimer Dieu, c'est supprimer le fondement de la connaissance. C'est pas le philosophe qui a la réponse, c'est le Dieu qui se dévoile, pour reprendre cette belle expression de Dan Carson. Et puis, après, c'est pas tout de démontrer que l'autre a tort, il faut démontrer qu'on a raison. Et donc, on verra comment démontrer la cohérence et la rationalité qui découlent de la révélation que nous connaissons par la parole de Dieu. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle une pensée apologétique, et c'est un grand monsieur qui était très brillant, qui s'appelait Cornelius Van Til. On appelle ça le présuppositionnalisme. Ça veut dire que toute pensée est régie par des présupposés. Et qu'il faut comprendre ces présupposés, les démonter et montrer que le seul présupposé qui peut tenir toute critique est le présupposé que toute logique vient d'une source qui est la révélation de Dieu lui-même. C'est costaud. Il est 10h05, je vous ai pris 4 minutes, je m'en excuse. Nous avons terminé. Voilà.